48FM. 48FM.
Les Split John au couloir en numéro 2. Allez, les Split, c'est parti pour les Split John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, je vous ai remarqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du petit apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du petit apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Salut à tous, c'est la 90e édition, émission même de l'Instant Sport avec plein de matchs ce week-end, donc plein de résultats décortiqués, avec notre ami Laurent Julien qui est là aujourd'hui, salut.
Salut, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices, surtout ceux du Grand Moulin de Blagnac qui nous écoutent.
Eh ben, c'est sympa et c'est dit, et voilà. C'est toi qui ouvriras cet Instant Sport car tu étais au derby de Coupe de France féminin de handball hier à Saint-Alban.
Voilà.
Et juste au passage, t'as mis un petit but ce week-end en match.
Un joli but.
Eh bien, en parlant de.
Et j'étais pas hors jeu.
Et t'étais pas hors jeu. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais peut-être qu'il y en a autour de cette table. Salut Julien Gall, présent au poste.
Et oui, bonjour à toutes et à tous.
Un petit triplé, toi.
Un petit triplé, ouais, ça fait pas de mal. Hein.
Et toi non plus, tu n'étais pas hors jeu.
0 sur 3.
Voilà. Hein, et tu n'étais pas hors jeu.
Pour faire taire les critiques.
Non, Laurent, non, pas du tout. On peut pas être hors jeu en tirant un penalty. Donc déjà,
j'ai tiré un péno et après deux fois face à face face au gardien.
Ok.
Bravo. Voilà. Non, mais la chance de Laurent, c'est que Julien n'était pas à la touche. Sinon, il aurait le drapeau et voilà.
Ceci dit,
tu n'aurais jamais pu marquer.
Je tiens à préciser quand même qu'ils ont joué vendredi soir juste après notre entraînement et il m'avait même pas dit bonjour. Il m'a dit, est-ce que t'as vu mon but?
Ouais, c'est normal ça. Nice a gagné en plus hier, c'est la fête.
C'est un bon dimanche, ça fait du bien.
Aurélien Lacaze est là aussi, salut Auré.
Salut, bonjour à tous.
Allez, on va parler du basket pendant cette émission avec toi. On va revenir sur la défaite assez dure du BCM. Hein.
Effectivement, une nouvelle défaite, la deuxième d'affilée. C'est le début d'une crise, j'ai l'impression.
Oui, mais c'est pour ça. C'est bien qu'on ait l'entraîneur avec
Madrid,
nous.
Ouais. C'est ça.
C'est ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment des galactiques au BCM, mais bon, on va en discuter pendant cette émission. Patrick Biancon, qui a dû regarder Marseille comme moi hier et qui a dû se régaler. Salut Patrick.
Salut, tu as tout à fait raison. Et bonjour à toutes et à tous.
Et des buts hein, en Ligue 1 ce week-end.
Exact.
Des 5-0, des 5-0, des 5-0, des 6-0, des 1 partout.
Des 1-0.
Des 1-0. On va essayer d'en parler. Alors Patrick, on ne va pas parler de Morgan Sanson, mais de Morgan Lacabane. Alors Patrick, je crois que tu peux lui envoyer une demande en mariage, car on va réécouter les bandes
de
la semaine dernière.
Oui, je reconnais bien là tout ton extrémisme, mais bon, on va rester un peu plus calme. En tout cas, je la remercie très chaleureusement. Grâce à ces deux excellents pronostics, ça me fait 2 points. Et d'ailleurs, comme Aurélien me l'a dit en texto, je l'avais d'ailleurs annoncé quand, après avoir dit 1-1 contre Béziktaş, j'ai dit ben ça me fait 2 points. Et donc exactement, ça me fait 2 points. Donc merci à Morgan et en plus belle victoire du MGC dans ce match de derby. On en reparlera tout à l'heure. Donc excellente opération pour moi.
Allez, on écoute. Non, on n'écoute pas ça. On va écouter. Voilà. Allez, c'est parti. Momo. Allez, on finit pour Patrick, on dit combien PSG
Momo annonce 5-0.
5-0, ça te va
Ça va, j'ai un point.
Bon, ça va. Allez, on poursuit Beşiktaş qui reçoit Monaco. Allez, on finit Momo, combien?
Et 1-1 pour Momo.
Bon, mais j'ai 2 points.
Et ouais, pas mal, hein, pronos de Momo, c'est pas mal. Et voilà, tu l'avais annoncé, tu le savais.
Exactement.
Donc du coup, notre classement des pronostics Instant Sport, tu reviens sur Laurent qui a 2 points, tout comme toi. Sachant qu'Aurélien, Julien et moi-même n'avons marqué aucun point pour l'instant. Voilà.
Et oh, les nazes.
En parlant de pronostics, juste avant l'émission, j'ai reçu bien évidemment un petit texto du président du MGC, Philippe Roudier, qui m'a dit de transmettre toute sa science à Laurent pour son excellent pronostic.
Il n'a pas manqué de me le rappeler. Voilà.
Donc là, il me l'a encore rappelé avant que l'émission commence. Donc c'est vrai que Laurent, tu t'étais quand même, tu avais dit Handball Nord-Lozère comme favori, donc bien sûr Philippe Rodier, même de la Réunion, nous écoutait.
Il était rentré exprès pour le match.
Voilà, non mais il avait écouté l'émission là-bas en direct de la Réunion, fait un podcast, et donc bien sûr il avait retenu que tu avais mis Handball Nord-Lozère comme favori, et donc bien sûr il le rappelle juste avant l'émission.
Alors c'est vrai que j'ai pas voulu le dire lundi dernier, mais quand j'ai entendu le pronostic de Laurent, je me suis dit aïe, les pauvres. Les pauvres filles du Nord-Lozère, c'est pas gagné pour elles.
Et ouais, alors je sais pas qui c'est qui a eu la brillante idée de faire parier les filles pour nous, mais ce n'était pas vraiment brillant. Alors, monsieur Julien, d'ailleurs. Mmh. Tiens, on va faire un jeu. Auré, je vais te dire le message que m'a envoyé Laurent quand on s'est rendu compte, et tu vas le terminer. Je dis pas la fin, tu vas le terminer. Que Patrick avait marqué 2 points. Il m'a dit, je m'en mords les
doigts, sûrement.
Les doigts, j'imagine. C'est exactement ça qu'il m'a dit. Il s'en mord les doigts, il a bien raison, car Patrick revient sur nous. Allez, on va parler de cette victoire des seniors filles du MGC à Saint-Alban face au Nord-Lozère. Deuxième tour de Coupe de France, 16-11, et donc qualification du MGC pour le troisième tour. Laurent, tu étais à Saint-Alban hier. Un match serré, en gros, hein, qui s'est décanté à la fin.
Oui, alors très serré, puisqu'à la mi-temps, il n'y avait que 6-6. Donc c'est très rare dans ce sport.
Comme au rugby.
Comme au rugby, et donc à 7 minutes de la fin, il y avait 11-10 pour le MGC, donc c'était encore assez tendu. Et voilà, donc en fait, bon, comme souvent dans un derby, l'enjeu tue un peu le jeu. L'ambiance, elle était surtout dans les tribunes, les deux équipes avaient mis le paquet au niveau de l'ambiance, c'était très sympa. Après, sur le jeu, c'est vrai qu'on a senti beaucoup de crispation, des erreurs inhabituelles pour certaines joueuses, mais des deux équipes. Flo Baudin était enragé contre ses joueuses cadres qui sont, on peut le dire, passées à côté sur ce match, et avec des ratés, des face-à-face tirés à côté, enfin bon, voilà, donc beaucoup de déception du côté du Nord-Lozère, et un match qui s'est décanté surtout en fin de match avec une très bonne gardienne côté MGC, c'est Laurie,
on va l'appeler Laurie vu qu'elle s'appelle Laurie,
ouais. Et qui a tué tous les espoirs Nord-Lozère, de nombreux arrêts. Et voilà. Donc voilà comment s'est fini ce match avec plus 4 ou plus 5, je sais plus.
Plus 5,
qui s'est fini dans les dernières secondes. Donc c'est Laurie Grousset qu'elle s'appelle.
Voilà. Ok. Super.
Donc bon, voilà. On peut résumer que c'était pas le match de l'année, mais au niveau qualitatif. Mais c'était un match qu'il fallait gagner pour, comme on dit, la suprématie lozérienne. Bon, ça a basculé côté mandois. Peut-être que au niveau défensif, plus accrocheur, si ce n'est qu'au niveau Nord-Lozère aussi, elles ont été très bonnes en défense, puisqu'elles n'ont pris que 16 buts. Une bonne gardienne Nord-Lozère aussi, il faut le signaler. Une demi-centre pivot Camille, qui a fait un bon match du côté Nord-Lozère. Et Amande, bon après c'était cohérent un peu partout, sans plus.
On remercie Marie qui t'envoie un message pour te donner le nom de sa coéquipière. On la salue. Marie a joué en boitant alors.
Marie, elle a joué avec, elle avait sa botte au pied encore. C'est pas évident, c'est vrai pour courir.
Mais c'est raffiné sur un terrain.
Ah ouais, c'est raffiné.
De jouer avec une botte.
Non, c'est une plaisanterie. Elle a joué pas beaucoup, mais le peu qu'elle a joué en boitant, donc c'était pas l'idéal.
On la salue et bravo aux filles, hein, en tout cas.
Elle a été bien remplacée par...
C'était une belle fête après, tout le monde est un peu resté faire la fête, comment ça s'est passé?
Oui, voilà, bon, mais, rapidement, toutes les joueuses sont retrouvées pour boire un coup avec le public, donc voilà, c'était bon enfant.
Ok, nos invités de la semaine dernière, Alexandra, elle a fait un bon match côté Nord-Lozère?
Oui. Oui, elle a fait son match.
Et côté MGC, Camille, c'était Camille?
Camille aussi, ouais. Elle a bien bougé la défense.
Elle a pris des coups, elle en a donné?
Voilà.
Bon, ben c'est un pivot, c'est normal.
Non, mais au-delà du résultat, ce qu'on peut souligner, c'est l'ambiance exceptionnelle qu'il y avait dans ce gymnase. Il suffit de regarder sur les pages Facebook du handball dans Lozère. Il est marqué qu'il y avait un gymnase comble, une ambiance quasiment jamais vue dans l'histoire de ce jeune club qui existe depuis 5 ans. Donc voilà, l'émission a porté ses fruits. Et puis bon, c'est vrai que l'article de la Lozère Nouvelle qui a été repris par les deux pages Facebook aussi bien du handball Nord-Lozère que du MGC. D'ailleurs, je le remercie, c'était vraiment très sympa, avec des petits commentaires aussi très très chaleureux. Mais voilà, quand on peut nous aussi en tant que journaliste participer à faire connaître, à susciter un engouement, Ben, notre rôle est rempli et donc ben, super pour cette fête du handball féminin à Saint-Alban.
Ouais, voilà, c'était la fête du handball et encore plus féminin qui est rarement mise en avant, hormis sur nos ondes. Et donc c'était bien, c'est des beaux moments à vivre pour les joueuses aussi. Même si ce n'était qu'un deuxième tour de Coupe de France, ben c'était bien, je trouve, qu'il y ait cette fête du handball qui s'est bien passée. Quoi.
Voilà, et maintenant, on va mettre en avant les buts de Julien.
Disons que ça n'a pas fini.
Pour qu'il trouve un club, ça a pas fini genre comme le GC Nice, qui n'ont plus d'avant-centre.
Ça n'a pas fini comme le derby du foot qu'on a pu voir hier soir. Saint-Etienne-Lille, il n'y a pas eu d'invasion de terrain du côté du Nord-Lozère. Mmh. Et
il y en a rarement en handball.
Des supporters de handball, quoi.
Oui, on parlera un peu peut-être des problèmes autour du foot en fin d'émission, on va voir. Bon, ben c'est super pour les filles du MGC, un peu moins pour celles du Nord-Lozère, mais en tout cas, la fête était là et on espère que ça se reproduira dans l'avenir, ces matchs de Coupe de France, et pourquoi pas la revanche l'an prochain à Mende, ça serait sympa. Oui. Les garçons jouaient à Mende hier et c'était un super résultat pour eux car ils ont gagné contre Annecy à domicile 35-32. Du coup, au classement, une très bonne opération du MGC qui se retrouve à quelle place, Auré ?
Suivant ton classement, il se retrouve à la troisième place. Hein.
D'accord, Julien Harry, alors est-ce que tu as le bon classement ? Est-ce que
non,
tu as un autre ?
C'est juste que j'étais en train de regarder ton classement, mais il n'y a pas les points. Il y a beaucoup de chiffres, mais il n'y a pas les points.
Voilà, les points, les points sont faux.
6 points, 8 points.
Les points sont faux. Les points sont faux parce que tu vois, Mende a 3 victoires et 2 défaites. Et Owen, quand tu gagnes, tu marques 3 points, donc ça fait 3 fois 3, 9. Et quand tu perds, tu marques un point, donc plus 2.
11 points.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, en troisième position, ça c'est vrai, Mende, le MGC est troisième.
Merci Patrick, j'ai échappé belle. Alors est-ce que les buts sont bons, parce que les buts encaissés et mis, parce que s'ils sont bons à ce moment-là, j'ai remarqué que le MGC, qui a la troisième meilleure attaque, a la plus mauvaise défense en étant troisième.
Eh bien oui, parce que...
Oui, il y a ce match à Cournon.
Il y a le match à Cournon où il y avait eu...
Plus de 42 buts, non, je crois.
Oui, oui, mais surtout moins de 30 marqués, donc voilà, c'est ça l'explication.
D'accord, parce qu'on...
Cournon qui a subi sa première défaite de la saison à Firminy.
C'est ça.
Alors, on m'a dit un très bon Gaëtan Roche.
Un très bon Gaëtan Roche et puis un très bon Robin Bartholome, en particulier au jet de 7 mètres. Et puis Erwan Pott, 7 buts aussi. Donc, à eux deux, 10 buts pour Robin et 7 pour Erwan. Ça fait 17 buts à eux deux.
Donc, Robin n'a pas mis 10 buts sur penalty.
Il en a marqué 5 ou 6 sur penalty.
Il en a marqué
6, je crois.
Tout en douceur aussi.
Et 4 dans le droit.
Ouais, très belle partie, en effet. Tout le monde s'est régalé samedi soir. Bon, il y avait de l'ambiance comme d'habitude. Et puis, on a vraiment vu une équipe très homogène. On a moins vu Ravzan Letu, qui d'habitude surclasse toute l'équipe. Mais c'est très bien parce qu'on voit qu'un jour où il est un peu moins bien, eh bien il y a quand même ses collègues à côté. Et c'était vraiment un très beau match qui, je pense, qu'on n'aurait pas gagné la saison dernière. On n'avait pas assez de vertu. Qu'on peut avoir cette année et bravo à toute l'équipe, même ceux qu'on n'a pas cités se reconnaîtront, c'était un très beau match.
Et sur internet on peut voir un très bel article de Annecy où ils font le compte rendu de ce match et donc je trouve que c'est très bien rédigé et ça à très mon honnête. Avis retranscrit très bien la physionomie du match et donc on apprend que Annecy voulait surtout pas donner de rythme à la partie parce que ils avaient étudié le jeu du MGC, ils savaient très bien que ben, les contre-attaques, le jeu rapide, c'était un peu la marque de fabrique de cette équipe. Et donc, ils expliquent leur défaite par le fait que, justement, ils sont pas parvenus à enrayer ce rythme un peu effréné et à mettre qui met aussi le feu dans les tribunes. Et donc, ils expliquent leur défaite
qui engage de l'indisciplinité, puisque un de leurs bons arrière s'est fait sortir...
Carton rouge,
à la fin.
3 fois 2 minutes,
Dans le Money Time, donc...
Ça s'est joué sur la fin, le match ?
Ben disons que ça s'est
joué. Ils
sont revenus à égalité à quelques minutes de la fin.
3 minutes de la fin.
Alors que le MGC avait mené tout le match, quoi. Mais finalement, l'équipe a pas tremblé, et s'est repris, et puis voilà.
C'est sûr que ça change de l'année dernière, ça, sur le fait de pas trembler en fin de match, parce qu'Annecy qui revient à 32-32 à la 58e, et finalement, c'est dit que après c'est Robin, je crois, qui met le 33-32, et sur la contrat, enfin, sur l'attaque du Annecy, ils ont jamais tremblé, quoi. Et après, ils ont pu finir le match tranquillement, et. Ça, c'est sûr que ça change un peu de l'année dernière.
Bon, le petit point noir, puisqu'on ne peut pas toujours dire que c'est parfait, c'est toujours 32 buts encaissés. Quoi. Malgré un énorme gardien.
35 buts mis, 32 encaissés, c'est beaucoup.
Un énorme gardien, heureusement qu'on a un énorme gardien, on prend quand même 32 buts. Et bon, je pense que c'est encore là où il faut bosser.
C'est le spectacle.
Un peu plus.
D'ailleurs, c'est le spectacle. On met souvent en avant le rôle du gardien. Hein. J'ai l'impression qu'il fait un début de saison assez tonitruant. Hein.
Et oui, parce que peut-être que l'arrivée du gardien roumain, même s'il est reparti depuis, je sais pas, ça lui a peut-être eu un déclic dans sa tête. Bon, il a toujours fait parfois des matchs où il avait des mi-temps sur 30 minutes. Il pouvait te faire 10 arrêts en 30 minutes. Et bon, c'est vrai que là, en position des titulaires et avec des 10, 15 et là 17 arrêts, je crois, contre Annecy, c'est vrai que c'est énorme en termes de stats pour un gardien, quoi.
Et oui, ouais, oui, absolument.
Il avait bu du jus d'orange avant de venir jouer. Il était en transe.
Ben écoute, il faudra qu'il continue en boire. Mmh. Le prochain match, c'est contre qui, on le sait ?
Ben, c'est samedi, à domicile.
Encore à domicile ?
Ouais, deuxième match consécutif à domicile. Donc ce samedi, alors je crois
contre Saint-Égrève.
Voilà, Saint-Égrève.
Qui est au milieu du classement.
Ouais, mais qui a éclaté Fontaine à domicile avec un plus 9.
Au milieu du classement, mais qu'à 2 points du MGC. C'est très serré.
Ouais, c'est très serré.
Ils sont 5 équipes à 11 points. Là, du deuxième au septième, ils ont 11 points. Mm. Après, il y a 3 équipes qui suivent à 9 et les deux derniers, 7 points. Donc sur le début de saison, là, c'est assez serré.
Ok, et si les filles, on sait contre qui elles jouent là ce week-end ou pas du tout ? Le Nord-Lozère et le MGC, on ne sait pas. Si on peut nous envoyer des messages pour nous dire qu'on annonce les matchs après ce tour de Coupe de France. Allez, on passe au volet, le MVL qui se reprend après sa défaite contre Fréjus. Victoire contre Charenton, 3-7-1, 25-16, 27-25, 19-25, 25-23. À noter que dans le match au sommet, Fréjus a perdu à domicile face à Martigues, 3-7-2. Ça nous arrange ou pas, ça, cette défaite de Fréjus, Patrick ?
Je crois que j'avais dit la semaine dernière que je...
Vous préférez désirez la un 3-2 pour Fréjus.
Bon, un 3-2, c'était pas mal. Bon, après, c'est sûr que bon, comme Fréjus recevait, il aurait été préférable que ce soit Fréjus qui gagne. Mais bon, déjà, un 3-2, c'est pas mal parce que ça fait 2 points uniquement pour Martigues et un seul point pour Fréjus. Donc, c'est ça qui est pas mal sur le coup. Quoi.
Si on gagne Martigues, ça mettrait un peu les pendules à l'heure entre une défaite de Fréjus, une défaite de Mende et une défaite de Martigues. Ça serait pas mal.
Le match aller, c'est à Martigues. Je pense que si on perdait 3-2, ça serait déjà pas mal.
Ok, d'accord.
C'est le prochain match d'ailleurs, hein, oui. dans 15 jours, il me semble.
C'est le samedi d'après, le samedi 18.
Déplacement à Martigues.
Mais Patrick, je te rassure, les joueurs vont partir pour gagner.
Non mais c'est clair, là je parle moins en tant qu'observateur. Il est bien évident qu'ils ne vont pas faire le déplacement pour perdre 3-2, mais bon, en tout cas...
Ils ne vont pas se dire, les gars, on perd 3-2, quoi.
Moi, en tant qu'observateur, je me dis qu'une petite défaite 3-2 à Martigues, ça serait pas mal. Ça serait déjà pas mal.
Oui, d'accord. Bon, si tu le vois comme ça, mais moi je pense qu'on va y aller pour gagner. Tu as raison, Laurent. Mmh. Et qu'on va gagner d'ailleurs.
Et qu'on va gagner.
Voilà, parce que voilà, on le rappelle, hein, on garde les points contre les équipes au second tour au play-off. Et on risque de se retrouver face à Martigues et Fréjus. Là, on est passé devant Fréjus avec 15 points. Fréjus qui en a 14. Mais s'il y avait les play-offs demain, on serait derrière Fréjus parce qu'on a perdu contre eux.
Oui, mais bon, on a gagné 3-1 contre le CNVB alors que eux. On a gagné 3-1 contre le CNVB alors que eux ils ont gagné que 3-2. Donc ils perdent un point par rapport à nous. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre ce match de Martigues pour vraiment faire déjà un point puisque le match de Martigues ce sera le dernier match aller. Donc on pourra déjà calculer par rapport aux 4 premiers, quoi.
Voilà. Coupe de France pour le MVL.
Ouais, dès demain, match au sommet, un match énorme contre Orange, donc qui joue en Ligue B. Donc voilà.
Ils sont bien classés.
Ils sont classés au milieu de tableau.
Ouais.
Au milieu de tableau.
Ils ont fait 2 victoires, 1 défaite, hein, il me semble.
Ouais. Et oui, parce qu'il n'y avait pas de match. Eux, ils ne jouaient pas ce samedi. Et donc le dernier match, bah, qu'on en avait parlé, ils avaient battu Avignon 3-7-1 dans un derby qui avait été assez spécial, puisque le président d'Avignon s'est fait crever les 4 pneus quand il est sorti du gymnase après le match. Bah, sa voiture. Avait les 4 pneus crevés et puis il y avait des inscriptions des insultes surtout à la carrosserie de sa voiture. Donc ben voilà, donc c'est vrai qu'un derby, un derby spécial à Orange, et donc ben je pense que ça va être chaud parce que Orange quand même est une équipe qui est assimilée quand même avec beaucoup de chambrage, un contexte quand même un peu spécial. Donc, je sais pas comment ça va se passer demain, mais on peut s'attendre quand même à un match assez intense et assez...
Est-ce que tu veux que je m'occupe du chambrage?
Écoute,
s'il faut venir mettre le temps au niveau chambrage,
tu seras le bienvenu.
Il y a pas de match retour, on s'en fout.
Non, il y a pas de match retour. Il y a pas à ce niveau-là, à ce niveau, il y aura peut-être un match l'année prochaine aussi si on accède à la Ligue B, mais en tout cas, il y aura pas de match retour, c'est sûr.
On va les chambrer, on partira 5 minutes avant la fin.
Ouais, voilà, c'est parce qu'ils sont grands quand même les mecs dans le volet.
C'est grand. Ah ouais, ça se passe aussi dans le volet, ces incivilités.
Ouais, tu peux le voir aussi. Bon, moi j'ai vu l'article sur la Provence avec l'interview du président d'Avignon qui était écœuré et qui a eu des mots très forts et il a fait un courrier au président de la Fédération française de volley, au président de la Ligue nationale de volley, il a écrit au maire d'Orange dans l'article on se rend bien compte qu'il cible une personne de l'entourage de ce club d'Orange, mais sans bien sûr la citer. Mais donc on voit quand même toute la tension qu'il y avait autour de ce match.
Ils n'ont pas
la
même notion du derby que nous. Nous, c'est quand même un jour de fête. Et là-bas, après, visiblement, c'est pas le même cas.
Non, là, ça a été la soupe à la grimace.
Ok, donc demain, Coupe de France. La Coupe de France qui avait quand même fatigué les joueurs de Mende de l'an dernier, on s'en souvient.
Oui.
Il y avait eu un petit passage à vide à la fin. Est-ce qu'on ne devrait pas la laisser tomber?
Non, mais attends, Ludo. Puisque tu joues la Coupe de France professionnelle.
Ah oui, c'est la professionnelle.
Et une fois que tu seras éliminé, tu rejoueras la même Coupe dont on est tenant du titre. Donc notre parcours en Coupe de France n'est pas terminé.
D'accord.
Il ne fait que commencer.
Est-ce qu'on ne devrait pas se faire éliminer des deux?
Non, moi je te dis franchement, avec l'émotion vécue lors de cette finale à Clermont-Ferrand.
Patrick verrait bien une défaite 3-2.
Non, surtout pas. Non, mais c'est vrai que je. Non, mais par contre, le jour de la finale, c'est vrai que dans le 5e set, oui. je nous ai vu perdre 3-2. Mais bon, finalement, oui, on a eu la chance de gagner 3-2 parce qu'à un moment, c'était plus que tangent.
Ouais,
mais il faut revivre ces émotions en coupe et si on peut encore une fois atteindre la finale, ça serait vraiment génial.
Ça avait été pareil l'année dernière, on avait commencé par la Coupe de France professionnelle.
Non, enfin, parce qu'on n'avait pas le droit de la jouer. Et là, cette année, on a le droit de la jouer parce qu'on a gagné la Coupe.
Pas que, même le finaliste
même
la joue.
Le finaliste,
aussi.
C'est vrai.
D'accord.
Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a le droit.
Qui joue contre une première division, lui, parisienne.
On a le droit de la jouer. Et donc attention, horaire spécial, demain, c'est à 20h et non pas 20h30. Donc début du match, coup d'envoi demain contre Orange, 20h.
Eh bien, c'est noté, Patrick.
Sur gymnase de Pincourt.
À partir de 19h30.
Voilà.
On vous attend à 19h30 pour l'arrivée des joueurs d'Orange. On va passer l'après-national. Alors, jouez pas ce week-end. On va passer au foot avec un match fou à Delmas. Victoire de l'AFS face à Balma dans le temps additionnel. 3-2. But pour l'FL, Rebolosso 60e, Ndiaye 85e, Gourmal à 93e sur penalty. Balma ayant marqué à la 62e et à la 90e. Deux exclusions, dont Atim à la 71e pour Balma, Robert à la 89e pour l'AFL. Match complètement fou, Patrick.
Julien y était, parce que je l'ai croisé de loin. Ouais, c'est vrai, on a vu deux matchs. On a vu deux matchs. On a vu une première mi-temps.
J'étais déjà dans mon match du lendemain.
Il était ramasseur de balles.
Sous la pluie. Il n'y en avait pas, c'est sûr que là, il n'y avait pas trop de candidats. Non, mais pour revenir au match, on a vu une première mi-temps où il ne s'est rien passé, mais vraiment rien du tout, aussi bien du côté de Balma que du côté de l'AFL. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un changement de joueurs. Enfin, Johan Robert a remplacé Ibrahima Mbou à la mi-temps et il y a eu un changement tactique. Puisque Rebolosso était plus, moi je l'ai vu comme numéro 10 en première mi-temps. Après on l'a plus vu comme un vrai attaquant en deuxième mi-temps. Et donc on a vu, c'est vrai, une superbe deuxième mi-temps avec un arbitre aussi qui a fait que le match a été aussi vivant. Il faut le,
c'est lui qui a décidé du sort du match.
Voilà, il faut le reconnaître aussi. Pour moi le premier but de Rebolosso est hors jeu. Bon, ça le central il peut pas trop le voir, mais l'arbitre assistant aurait dû le signaler. Et puis après, moi, si je suis franchement arbitre central, ni le penalty pour Balma, ni le penalty pour Mende, ben, j'en siffle aucun des deux. Bon, ça n'aurait rien changé, il n'y aurait que deux. Mais c'est vrai que ça a ajouté du piment à cette fin de match. Et bon, on a vu une équipe de l'AFL vraiment un visage totalement différent en deuxième période. Une équipe qui vraiment s'est bougé pour arracher cette victoire et donc on a vu la machine semble repartir et donc c'est bien pour on est en cinquième, on revient dans le top 5, donc c'est bon pour la suite.
D'après Ludo, on est sixième.
Oui, non mais je ne donnerai pas.
On est cinquième ex aequo avec Montpellier.
Ça donne quoi, ouais, Julien? Le bon
classement, la réserve de Toulouse est première avec 18 points, suivie de Canet en Roussillon, deuxième, 16 points. Fabregue est troisième avec 15 points. Quatrième, la réserve du Nîmes Olympique, 14. Et cinquième ex aequo, la réserve de Montpellier et la FL 13 points.
D'accord, voilà. On n'est pas loin. Ouais. Bon, Toulouse, on est quand même à, tu à 5 3, points. Mais...
Tu as 3 points du second.
C'est ça. De toute façon, il n'y a que le premier qui monte. Hein.
Oui.
Et la réserve de Toulouse, elle peut monter ?
Oui.
Ok. Bah bon, on va pas.
Oui, mais la réserve de Toulouse, qui ben, samedi n'a fait que match nul sur son terrain contre Rodéo.
C'est ça.
Qu'on avait battu 2-0.
Voilà.
C'était le derby de la ville rose. Hein.
C'est ça.
Très bonne opération. Le terrain, ouais, c'était, ça devait être compliqué, écoute, hein, vu ce qu'il est tombé.
Une pluie battante, mais la pelouse, moi, pour moi, ouais, parfaite, super bien tenue. Il n'y avait absolument pas de flaque. Et donc, on a pu voir, c'est vrai, un jeu rapide. Bon, surtout en deuxième mi-temps, je me répète. Mais bon, voilà, un Rebolloso qui est vraiment monstrueux depuis le début de la saison. Il faut souligner voilà, ce garçon qui est vraiment...
Il est partout.
Voilà, il est partout. Il fait vraiment un plaisir à voir. Et puis, bon, je le redis, une charnière centrale, à mon avis, Benji Almeras et Pierre Tessier, hyper solide. Moi aussi, je vois hyper solide depuis le début
de
la saison. Et bon, encore un gros match sorti par les deux. Parce que bon, Balma... Alors, tu peux pas ressortir vraiment un gros joueur du côté de Balma, mais une équipe quand même qui s'est vraiment battue et qui bon, il y a eu un match vraiment indécis en deuxième période.
C'est où Balma ?
C'est la banlieue de Toulouse.
Ah d'accord, encore.
Comme et quoi les clubs de la Haute-Garonne nous réussissent bien.
Yes.
Si ça pouvait être pareil contre la réserve du TFC, ça serait
première victoire à domicile de la saison.
C'est ça.
Elle aurait
c'est
un peu de temps arrivé, mais elle fait du bien.
Ouais, puis surtout elle fait du bien comptablement parce qu'elle te permet de capitaliser sur la victoire à l'extérieur que tu avais eu la journée d'avant. Donc c'est vrai que tu fais un sacré bol en deux matchs au classement et ça permet d'engendrer une spirale positive qui est de bon augure pour la suite. Hein.
Donc le prochain match à l'extérieur du côté de Castanet, là aussi la région de Toulouse et Castanet qui est dernier. Donc,
il n'a pas gagné un match.
Ouais, bien aussi,
mais il
faut gagner
quand
là-bas.
Même le prendre au sérieux.
Oui, oui.
Voilà. Donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Hein. C'est le 18.
C'est Coupe de France ce week-end ?
Non, c'est match. Coupe Garloser pour l'AFL. Ils vont à Saint-Ambroix.
D'accord.
Il n'y a plus de Coupe de France.
Oui, c'est vrai.
Non, mais il y a une Coupe de France pour ceux qui sont toujours qualifiés.
Et à noter, pour finir, le but de Fadil Gourma qui tremble pas quand même à la dernière seconde. Parce que c'est pas facile de mettre un pénal à la dernière seconde.
Est-ce qu'il a retenté la panenka
voilà. Non, pas de panenka. Il a attendu tranquillement que le gardien plonge sur sa droite. Et il lui a mis hauteur sur le côté gauche, donc à contre-pied. Parfait. Et donc une explosion de joie des joueurs, des tribunes, et puis du coach, de tout le staff. Ça faisait plaisir à voir. À la deuxième mi-temps, j'étais à côté du président Laurier. Là, on était un groupe de supporters avec le président. Et donc, c'est vrai qu'il vit le match à fond. Hein. Je le savais déjà, mais là, j'en ai eu confirmation. Et donc, c'est vrai que sur le penalty, ça a été un peu la folie dans les tribunes.
Et Patrick a parlé de la bonne rentrée de Johan Robert. Il y a aussi une bonne rentrée, celle de Paul Camizulis, qui a joué que un quart d'heure.
Ouais.
Mais en numéro 6, dès qu'il est rentré, il a vraiment apporté du sang frais là, au milieu de terrain. Et sur les deuxième et troisième buts, il est décisif, puisque sur le deuxième but, c'est lui qui tire. Le ballon est un peu freiné, ça permet à Biram Ndiaye de finir. Et sur le troisième but, c'est lui qui se jette là, avec beaucoup d'envie, de fougue, là, les deux pieds en avant pour essayer d'aller marquer ce but. Et il est fauché, ou pas d'ailleurs, par le défenseur de Balma, mais c'est lui qui provoque le pénalty en tout cas. Donc il a fait un très bon quart d'heure, donc je tenais à le signaler.
C'est vrai qu'il a fait un raid sur je sais pas 30 ou 40 mètres où il
ça
a passé en
ballon,
revue, ouais, il a passé en revue 3 ou 4 joueurs adverses et c'est vrai que ça a fait
ça l'a mis en confiance.
Voilà, ça a fait lever le public.
Exactement, mais c'est tant mieux et je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Bref. La réserve a gagné 2-0. Ah aussi voilà, ce que je voulais vous dire, j'ai vu que le match Alès Agde a été arrêté.
Il y avait la pluie.
C'est la pluie.
Ouais, voilà, il y avait un déluge sur Alès. Ben là aussi quand il y a la chance d'assister au match avec Philippe Laurier, donc comme il est connecté sur son portable 24 heures sur 24, il te dit au fil les résultats. Donc tu sais que le match à Alès est arrêté, tu sais que Luzenac mène, tu sais que Blagnac a égalisé contre Canet, donc tu es au courant de tout. Quoi.
Déjà que le terrain à Alès, c'est pas un caviar, alors dès qu'il pleut un peu, c'est scandaleux. Oui. Quoi.
Donc on sait tout en direct.
Ouais.
Ok, la réserve de l'AFL avec des renforts de la Une est allée s'imposer à Port-Tiragne, 2 buts à 0. Diédiou est à la 37e et Barandan à la 60e. Belle opération, monde qui du coup se retrouve au milieu du classement.
Ouais, ça fait du bien, même si c'est serré là sur le début de saison. Il y a peut-être Lunel qui se dégage un peu devant. Après, ça a l'air assez serré au niveau du classement, donc c'est une bonne chose d'avoir gagné là où la Une de l'AFL avait perdu en Coupe de France il y a un mois.
Ah, c'est vrai.
5 à 1.
Ouais, c'est vrai, je m'en rappelais plus. J'avais pas fait le rapprochement.
Oui, c'était la même équipe. D'accord. Mais bon, il faut quand même souligner la composition de cette équipe réserve de l'AFL, avec énormément de joueurs du groupe de la Une. Bon, il y avait Flo Fedel qui était plus suspendu, il avait pas géré ses 4 matchs. Bon, mais il a fait sa rentrée, il y avait quand même Michael de Freitas. Et puis Jérémy Fabre qui n'est pas entré contre Balma et donc qui est allé jouer avec la 2, et puis les deux jeunes, parce que c'est le règlement aussi spécial. Tu parlais de Paul Camizulis, mais il c'est a pareil pour Johan Malo. Quand tu entres en deuxième mi-temps en national et que tu as moins de 23 ans, tu as le droit de jouer le lendemain en équipe réserve. Et donc, ça a été le cas pour ces deux joueurs, Paul Camizulis et Johan Malo.
Ok. C'était une petite revanche ou pas de mettre tous ces joueurs au
Je pense. Il y avait deux aspects. Il y avait l'urgence du résultat parce que le début de saison, ben, tu manquais de points. Et puis, il y avait aussi, je pense, le fait de faire voir à Portiran quand même que Mand avait un effectif. Et donc, ça avait été un accident ce jour-là. Mais bon, de leur faire voir que l'équipe 2 était capable de gagner chez eux.
Ok, l'ENL perd à domicile 4 buts à 1 contre Ali Mauriac. Le Buisson perd aussi à Monoblé 1 but à 0. Alors il faut aller du côté de Langogne pour trouver une victoire à l'extérieur à Romagna. 2 buts à 1, doublé de Grégoire Gaudin en 8 minutes. Langogne qui est du coup 5e du classement. Allez, on va faire une pause musicale avant de parler de la départementale 3 et du triplé de notre ami Julien Gall et de parler du basket avec le coach qui va nous éclairer un peu sur cette défaite surprise dans le 4e carton du BCM. On va en parler après la musique. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. You ain't up on
pain. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffing my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give
still,
you the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back.
So you ain't up on
things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still
taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Representing for the gangsters all across the world.
Still
hitting the corners in the polos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh wee. Put it in the air, air, air. Boy, you's a fool, D.R.
Allez, on est de retour pour parler de la départementale 3 qu'on adore dans cette émission et qu'on suit bien entendu avec, ça y est, je sais plus où j'en suis. Voilà, j'ai les résultats. Notamment un Badarou contre Sud-Lozère qui valait le déplacement au Ré. Qu'est-ce que ça a donné un peu ce week-end?
Eh bien, ça a donné que Badarou s'est incliné sur sa pelouse 1-2 contre Sud-Lozère.
Ok, les autres résultats?
Du coup, les autres résultats, Marvejol a gagné 2-0 contre Le Buisson 2. La Vaillante Aumônaise, ton équipe fétiche, a gagné 3-1 contre le Valdo. Chastel-Saint-Georges, 1 partout. Montrodite a gagné à Chirac, 5-2. Mende 3 a gagné 5-0 contre le Massegros, avec un triplé d'un fabuleux attaquant, paraît-il. Et enfin, Nord-Lozère 2 a gagné 4-1 contre Margeride.
Ok, merci au classement. Alors, je ne sais pas si j'ai le bon classement. Tu en as un, toi, Julien, ou pas? Ça a l'air bon. Ouais. Marvejol en tête, 30 points. Sud-Lozère, 27 points derrière. Badarou, 24. Mende 3 qui remonte à 24 points aussi. 3e ex-aequo. Le Buisson 2, 22. Le Massegros, 20. Valdonnès, 19. Vaillante Aumônaise, 18. Chastel, 18. Montrodat, 15. Nord-Lozère, 2, 14. Chirac, 14. Saint-Georges, 14. Et Margeride, 13. À noter que le Sud-Lozère a perdu en coupe cette semaine.
Coupe Lozère.
Laurent, contre qui?
Au Massegros. Petite surprise.
C'est
une grosse surprise, même. On va dire.
Ouais, grosse surprise. Il y avait quoi comme autre match, vous savez, là, en coupe ou pas?
Le Chastel qui a éliminé le Collet 4-0.
Chastel se retrouve en demi-finale.
Collet Dès qui était le petit poussé, ils ont perdu 4-0. Donc pour l'instant, en demi-finale, il y a Chastel et Massegros et il reste deux quarts de finale à jouer.
Qui
entre
sont
Le Buisson et Marvejol et Saint-Georges et l'AFL.
Ok, d'accord, on retrouve tous les gros de ce championnat, donc mis à part sur
la Coupe Lozère, c'est la réserve de l'AFL, la Coupe Lozère.
Ah, c'est pas la 3. Ah,
non,
d'accord.
La 3 joue la Coupe d'Alu.
Ah oui, c'est vrai.
Ils ont gagné en Coupe d'Alu 7-1 la semaine dernière contre Fournelles.
D'accord, tu y étais?
Non.
Et la 1 joue la Coupe Garlozère.
Ouais. Mm.
Et on en est où en Coupe Garlozère?
Ils entrent là samedi à Saint-Ambrois.
Ok, d'accord.
Voilà.
On l'a dit tout à l'heure.
Un coup à faire en Coupe Garlozère.
Bah, ils remettent leur titre en jeu.
Voilà.
Ouais. Rien à dire sur ce Marvejol qui continue tranquillement à rester devant et Sud-Lozère qui s'accroche.
C'est les deux équipes. Et puis là, moi qui ai quand même Badarou et la 3 de Mende sont à l'affût. C'est les quatre grosses équipes de cette division.
Et chose surprenante, c'est... On voit dans les trois derniers, avant-dernier et un TP nultième, c'est Chirac et Saint-Georges qui jouaient quand même une division au-dessus l'année dernière. Donc surprenant, même Nord-Lozère 2 qui jouait une division au-dessus, mais dans le Cantal, qui sont à la peine. Alors c'est surprenant, ils vont très certainement se reprendre un peu plus tard.
La FL3 qui fait une belle remontée aussi, qui était pas très bien
il y a quelques
semaines. Et là, qui
enchaîne. Ça a été un peu compliqué le début de saison, mais comme je l'avais dit, je crois, une fois à la radio, ça dépend beaucoup en fait, des redescentes de la 1, qui dépendent ensuite des redescentes de la 2 et ensuite des redescentes de la 3. Il y a des joueurs qui sont convoqués des fois le samedi à 21h, donc c'est compliqué de trouver une cohésion d'équipe. Mais là, c'est vrai que ça fait 2-3 week-ends qu'il y a un petit peu les mêmes joueurs qui se retrouvent. Donc c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, on a mis... 14 buts et on n'en a pas pris un. Donc
je pense qu'ils ont trouvé un buteur cette équipe. Hein, Laurent, ils n'ont pas trouvé un buteur ?
Oh non, ils en ont trouvé plus que ça. Il n'a pas mis 14 buts. Hein, 14 buts, notre ami.
Oh ah, allez,
et allez, une blagounette.
Allez,
c'est quoi le prochain match, du coup ?
On va à Margerie.
Je vais le garder, ça, pour la prochaine.
T'as vu d'ailleurs, Ludo, j'ai dit on va à Margerie.
Oui, on va à Margerie.
Voilà, c'est mon équipe. On va à Margerie de samedi et en championnat, s'il n'y a pas de neige. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans deux semaines, on reçoit Foutu de Lozère.
Et il marque pas trop de bites, hein. Fais attention. Hein, jamais. L'entente féminine cœur Lozère recevait Saint-Cyprien en Coupe de France. Ça a donné quoi ?
Ça a donné une défaite 8-0. Ouf. Mais Saint-Cyprien à la Tour qui évoluait une division au-dessus. Et apparemment, trois joueuses devant qui allaient très très vite et qui ont fait beaucoup de mal à la défense de l'AFL. Donc voilà, Coupe de France qui s'arrête au deuxième tour, mais... Il fallait un petit peu s'y attendre au foot féminin. Dès qu'il y a une division d'écart, ça se ressent assez vite.
C'est énorme.
Ouais.
Rugby, faites vos jeux. Rien ne va plus. Quatrième défaite du RCML à l'avenir bleu et blanc, 23-10. Mende qui est avant-dernier du classement, égalité avec Villeneuve-les-Maglones. J'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas nombreux, hein, non, pour ce déplacement.
Oui, toujours des problèmes d'effectifs. Bon, quatrième défaite, saison compliquée pour le RCML, incontestablement. Même si bon, on perd de 23-10 à l'extérieur, ça n'a rien d'infamant, mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a un potentiel dans cette équipe, mais il manque trop de joueurs d'un week-end sur l'autre. Quoi.
Dimanche, réception compliquée puisqu'ils reçoivent 7.
Qui est leader.
Premier.
Qui est premier,
ouais, premier incontesté. Premier, ouais. Donc,
Et ben voilà.
Dimanche à 15h, ouais. Un gros match.
La première victoire, elle est dimanche pour le
RCML. Oui, parce qu'on se rend compte que de toute façon, 7. Ce dimanche, j'ai gagné d'un seul petit point contre Villeneuve et Maguelone, qui est dernier à égalité avec Mende. Donc pourquoi pas voilà, exactement. Donc pourquoi pas un exploit au chapitre dimanche prochain.
Eh bien, on va suivre ça. Hein. On en parlera dans la prochaine émission. Le basket, ça y est, on y est avec le BCM qui s'incline à l'extérieur 87-82 après avoir mené de plus de 20 points dans le troisième quart-temps. Alors, on m'a fait remonter des informations. Il semblerait qu'au quatrième quart-temps, l'équipe adverse ait fait un peu une peau gazole avec un joueur assez costaud qui a pris tous les ballons et est allé chercher des fautes et des paniers faciles, un peu comme la France à l'Euro contre l'Espagne. On se rappelle de ce match. C'était l'Euro, hein, c'est ça, Patrick, hein.
Oui, c'était à Lille, non, dans le stade couvert. Là. C'est un match, un cauchemar.
C'était la demi-finale.
Demi-finale
de l'Euro.
C'est vrai que c'était hallucinant de voir un tel joueur dominer.
Avec Geoffrey Lauvergne qui se fait éjecter de la raquette par Gasol.
Ah oui, c'est vrai. Où il y avait faute qui n'a pas été sifflée.
Exactement.
D'ailleurs, les joueurs du BCM se sont un peu posé de questions sur l'arbitrage, donc on ne va pas revenir dessus. Hein. Quand on perd, on perd. Il paraît qu'ils regardaient le banc en disant: Coach Auré, que fait-on? On ne trouve pas la solution. Mais Coach Auré était dans le même temps à 300 km de là, sirotait un petit cocktail dans un bar montpelliérain. Donc c'était assez compliqué pour eux de trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé, Auré ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà 87-82, donc un score qui m'a un peu étonné quand je l'ai appris. J'ai même demandé s'il n'y avait pas eu prolongation parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas réussi à marquer plus de 60 points. Donc là, marquer plus de 80, j'étais un peu étonné. Et puis non, il n'y a pas eu de prolongation, effectivement. On fait, je vais vous donner un petit peu les scores par carton. On gagne le premier carton 24-21. On gagne le second 17-13. On gagne le troisième 28-18. Et on perd le dernier 35-13. Donc effectivement, c'est vraiment sur le dernier carton qu'on pêche un petit peu. Alors le point positif, c'est on a réussi à mettre en place pendant les trois premiers quart-temps ce qu'on a vu depuis le début de la saison, à savoir du jeu rapide, des contre-attaques pour aller chercher des paniers faciles. Ça a très bien marché, notamment avec Mesut Ayildiz qui met 28 points dans tout le match, donc grosse performance de sa part. Et puis après, donc on avait 17 points d'avance à la fin du troisième, et pas plus de 20 comme tu dis. Je ne sais pas quelles sont tes sources, mais il faudra
20 points, c'est le site Facebook du Basket Cosmandois qui dit avec 20 points d'avance dans le troisième carton. Je n'ai pas dit à la fin.
Ah ouais. On avait 17 points d'avance à la fin du troisième carton. Et donc, mais voilà, après les joueurs d'Alba, effectivement, qui se rebellent un peu, qui commencent, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'était Alba 5, c'est une équipe de trentenaires qui a l'habitude de jouer ensemble, qui sont un peu roublards. Effectivement, ils ont sorti un petit peu les coudes et les coups, et on n'a pas su répondre aux défis physiques. Voilà, on a commencé un petit peu Alba qui marque 2-3 paniers d'affilée, qui reviennent à 10 points, puis moins de 10 points, et là on commence un petit peu à s'exciter au lieu de temporiser et de gérer le score et de faire tourner le chrono. Donc voilà, effectivement, c'est dommage comme voilà la physionomie du match, mais ça s'appelle l'apprentissage. J'espère que ça va nous servir pour les prochains matchs.
Voilà. Et peut-être que le prochain entraînement, tu vas faire du karaté ou du taekwondo avec
tes joueurs. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est une solution.
Hein, demande à Patrice Evra.
Voilà, voilà, demande à Patrice Evra. Mais bon, en plus, il fait rien en ce moment. Hein, pour y aller.
Ouais.
Match ce week-end à Mende, ça y est, enfin.
Enfin, premier match à domicile. Ce vendredi à 21h, coup d'envoi à 21h au lycée Chaptal.
Alors, est-ce qu'on aura des chaises?
J'espère, je sais pas, c'est pas dit
on
encore.
On laisse un appel au service technique de la mairie.
Oui, d'ailleurs, s'ils nous écoutent.
Voilà, s'ils nous écoutent.
On a besoin de 8 chaises parce que pour les 8 spectateurs. Non,
un peu
viendront.
Plus parce que déjà, autour de cette table, vous allez venir oui. Avec vos compagnes et vos enfants. Donc, déjà, il va y avoir un peu plus de monde que ça, j'espère.
Faut juste que je trouve des gosses, moi, perso.
Ouais, t'as une semaine pour en faire, là. Sans déconner. Ok, on a bien fait le tour de l'actu.
Et cette fois-ci, je serai sur le banc, je coacherai. Vendredi soir.
Ah, c'est bien ça.
Et pas sur le terrain?
Non, parce que je pense qu'on jouerait mes 10 joueurs. Enfin, on va voir ce soir à l'entraînement qui sera là ou pas. Donc, je pense que j'aurai un effectif de 10 joueurs. Donc, si on est 10, je ferai seulement le coaching. Et si on est moins de 10, effectivement, je me mettrai sur la feuille de match au cas où il y ait des problèmes de faute ou de blessure. Mais vraiment au cas où.
Alors, t'es plutôt un coach en costard ou en jog, là, tu vois?
Je sais pas du tout parce que j'ai jamais coaché. Donc, ça va être ma première sur le banc, tu vois.
Tu pourrais te déguiser, hein. T'arrives en peignoir.
Non,
ou,
quand même
pas. En cycliste. Non? Bon, on verra ça. Ok, mais c'est bon pour l'actualité départementale. Est-ce qu'on fait un petit pari ou pas? Moi, j'aime pas trop parier sur les matchs amicaux, mais là, il commence à avoir un écart. Ça commence à ne pas me faire flipper.
Ouais. Il faut rattraper le
retard. Il faut parier,
ouais. Ouais, bien bon. Sûr.
Vendredi soir, hein, c'est ça?
Yes.
France contre
Pays de Galles.
À domicile?
Oui.
Stade de France.
Oui.
Très bien. On est embêté maintenant pour faire démarrer celui qui est en tête parce que vous êtes à égalité. Alors, vu que tu es revenu sur notre ami Laurent, on va te faire débuter ce match avec beaucoup d'absents, hein, côté français. Hein.
Oui. 2-0 pour la France.
Ok, il ne veut pas en dire plus. Hein, 2-0 pour la France.
Il y a 8 joueurs quasiment indiscutables absents. Loris, Pogba, Dembélé, Payet,
Kanté,
Mendy, Lemar, ouais. Et il y en a encore un.
Non. Ok, ça roule 2-0. Auré.
Ah, mais je voulais dire 2-0 aussi, mais bon, pour revenir sur la tête, il faut prendre un petit risque. Allez, moi, je vais dire 3-0 du coup.
Ok. Julien.
3-0 aussi.
Très bien.
Un tir groupé.
Laurent.
Bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents en défense donc, et en attaque. Alors je vais dire victoire 1-0 de l'adversaire.
1-0 pour le Pays de Galles.
Pays de Galles va venir gagner chez nous. 1-0.
Ah, il est fort, hein. il tente
non,
les
non,
coups.
Non,
hein.
c'est pas tenter un coup. Il va pas faire beau, le terrain est pourri, ils seront dans leur élément. Et nous, tous ces petits jeunes seront un petit peu en stress. Et puis ça sera très bien de prendre une petite fessée avant de se remettre au travail.
Il est presque convaincant.
Il fait quand même une erreur parce que la pelouse du Stade de France depuis quelques mois est magnifique puisque maintenant c'est un Anglais qui s'en occupe. Donc c'est un peu le cousin dessus de Paris Saint-Germain. Donc la pelouse est nickel.
Pays de Galles, c'est pas là où il y a un certain Gareth Bale?
Et il me semble qu'il joue pas là.
Il est blessé?
Il est blessé, ouais.
C'est Zizou qui le bloque.
Ok, mais tu sais, tu m'as quand même convaincu. Ah ouais. Je pense qu'on va gagner de justesse, on va gagner 2-1. Voilà.
Alors, au Pays de Galles, par contre, il y a le fameux défenseur qui joue à Everton et donc qui avait provoqué la bagarre à Lyon. Ah, ouais. Et donc lui, il va certainement jouer.
Lui, il va s'en occuper là de nos petits Français. Là.
Ah, je l'aime bien, lui, Williams. Ouais. Voilà. Il est un peu idiot, mais je l'aime bien quand même.
Ben, donc tu vas le voir vendredi.
Super. Ben, c'est lui qui va marquer de la tête au bout d'une minute et on va courir. On gagnera 2-1. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parle de la Ligue 1, de ces 5-0, ces 6-0? Je sais pas de quoi parler, moi, avec tous ces gros scores. Hein.
On voit que les équipes de tête ont fait une bonne journée.
Voilà, on pouvait se dire au début de ce championnat, ça se jouera certainement entre Paris, Monaco, Lyon et Marseille. Et ben, c'est le classement des 4 premiers.
C'est le cas. Il y a Nantes qui joue un peu les troubles faites, mais qui, à mon avis...
Nantes qui a mis autant de buts que les autres équipes, mais depuis le début de la saison, quoi, sur cette journée.
Ouais, c'est ça. Mais qui a priori va quand même craquer, pourra pas tenir la cadence. Donc, ben, les quatre gros budgets, grosses équipes vont se départager les places. Bon, avec Paris, bien sûr, qui apparaît au-dessus. Mais après, pour le reste, il n'y a pas tellement d'écart entre Lyon et Monaco. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein.
Bon, la différence, c'est que
Monaco et Marseille.
Monaco et Marseille ont gagné largement, mais à domicile. les deux autres sont allés quand même gagner à l'extérieur.
Et notamment Lyon, à Saint-Etienne, dans un derby qui était chaud.
Ouais. Oui, c'était chaud, mais bon, on a eu une équipe lyonnaise, en particulier cette attaque, avec des joueurs vraiment au-dessus et un Fekir, c'est vrai, rayonnant en ce moment.
Ça commence à prendre forme, là, le coach Lohr, là. Au début, on parlait beaucoup là, des quatre de devant, beaucoup d'individualité, et là, c'est en train de se transformer en un collectif un peu sympa, quoi.
Tu parlais de
l'OM, là ?
Non, de Lyon. Ah. Non, on est en train de parler de foot. Là.
Tu parlais de ce défenseur gallois d'Everton. Là, j'ai l'impression que le match de Lyon à Everton, justement, où il y avait eu cette petite bagarre, ça a été vraiment fédérateur pour les Lyonnais. Parce qu'ils étaient allés gagner là-bas dans un contexte difficile. Et j'ai l'impression que du coup, ça les a vraiment ressoudés. Et que depuis, ils cartonnent.
Alors, le problème de Lyon, c'est justement la défense. Parce que c'est presque une défense marseillaise. Puisque quand tu vois Jérémy Morel, stoppeur gauche contre Saint-Etienne, tu te dis, heureusement que. Il n'y avait que Amouma et je ne sais plus qui. D'ailleurs, on les connaît plus, ces joueurs de Saint-Etienne. Donc, bon.
Et Soderlund.
Voilà.
Amouma, il n'a pas fait long fait.
Voilà, Amouma qui a fait une action que, de l'histoire, je pense que je n'ai jamais vue.
Une passe décisive.
Tu tires un corner, tu te claques, et en plus, tu donnes le ballon de contre-attaque, ça fait 1-0. Et ben voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. C'est une action impressionnante.
Le fait que Nabil Fekir était replacé un peu au centre, ça a joué ça aussi.
Ah oui.
Ce qui était sur une aile depuis toujours avec la casette, là,
il revient un peu sur le centre.
Il a
perdu 10 kilos aussi, peut-être. Oui. Aussi.
Et peut-être non, aussi
c'est
ça.
C'est vrai qu'il est replacé, on sent qu'il est affûté. Et bon, c'est quand même un joueur qui a quelque chose en plus.
Bon, et Saint-Etienne alors ? Perdre 5-0 dans un derby à domicile, je n'ai pas souvenir.
C'est la première fois, parce que leur historique, défaite la plus large, c'était 4-1 à domicile, là 5-0, mais Saint-Etienne. C'est d'une tristesse.
Mais c'est terrible. Il n'y a plus un seul joueur que tu connais. Ouais. Donc, à part Ruffier, le port, qui est d'ailleurs lui, quand le terrain a été envahi, est resté stoïque, fidèle à lui-même, peur de rien. Il est resté sur le terrain pendant que tout le monde se réfugiait dardard.
Dardard,
dans le
vestiaire.
Aller
voir Ruffier à ce moment-là quand il s'est pris 5
voilà, donc il était.
C'est pas le premier que tu as envie d'attaquer.
Il était zen. Il ressassait les buts. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est cette équipe? Qu'est-ce que je fais au milieu de cette bande de truffes? Et donc, voilà.
Mais c'est vrai, non, mais Saint-Etienne, c'est terrible. Quoi. On a
j'ai jamais vu Saint-Etienne aussi faible que ça faisait moment.
À chaque journée de championnat, on a l'impression de découvrir des joueurs. Quoi. Enfin,
oui, mais pourtant, ils ont fait un bon début de saison.
Mmh. Ouais, c'est tout. Ils ont fait 3 victoires les 3 premières journées et ça s'arrête là. Quoi.
Est-ce que Galtier n'était pas sous-estimé aussi ?
Certainement, je pense qu'on a été vraiment sévère avec lui. Bon, c'est vrai que ce n'était pas un jeu mirobolant, mais au moins, je pense qu'il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait faire tout au long de ses saisons. Et là, on se rend compte que c'est vrai que c'est pas si facile que ça de prendre sa suite.
Et est-ce que Genesio n'est pas sous-estimé aussi ? Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on entendait taper sur lui un petit peu. Et moi, je le trouve plutôt bon, ce coach.
Ouais, je suis un peu plus critique que toi. C'est pas un gars que je sens vraiment. Il faut quand même un certain charisme pour entraîner dans des top clubs. Et je vois un peu Genesio, un peu quand même. Je sais pas trop s'il arrive à faire sa loi au milieu de. Des forts caractères et des forts joueurs, et je pense que ça va quand même le bloquer à un moment donné pour vraiment viser beaucoup plus haut.
Il est où Galtier en ce moment ?
Il est au chômage.
Il va finir à Nice, ce Galtier, tu vois.
Non, mais il est bien Favre.
Et surtout en rééducation. Mmh. Il s'est fait opérer
de la hanche. Oui, c'est ça.
Une prothèse de hanche, donc ça prend quelques temps de repos.
Tu lis Nos Personnes Âgées Magazine, ou c'est que tu chopes tes infos, toi ?
Public, Closer.
Ouais. Ah bon, ok. Très bien. Vous voulez parler de quoi ? On va pas en...
Moi, j'ai une question. C'est quoi, c'est quoi pour vous, là ? C'est quoi ces supporters, de foot là, qui envahissaient les terrains qui...
Ça me fait plaisir que tu n'aimes pas. Ça
et,
me fait plaisir.
Et qui insultent leurs propres joueurs, là.
Vas-y, Patrick.
Non, mais tout le monde...
Vas-y.
Ça part à vous,
tout le monde se jette sur Patrice Evra. Alors, je vais pas être... Bon. Mais je vais dire, presque à Patrice Evra, j'y donnerai la Légion d'honneur. Franchement, parce que non, mais il faut arrêter avec tous ces bouffons.
Craque,
non, mais il faut arrêter, mais ça fait des années que je le dis. Il faut arrêter avec tous ces bouffons qui sont dans les tribunes. Ils sont carbonisés à la bière et au cannabis. Et ils font les malins, ils insultent.
Et là, c'était au Porto,
ils insultent tout le monde. Ils insultent tout le monde. Ils respectent rien. Ils respectent personne. D'ailleurs, il y a eu un article récemment où le jour de Monaco-Marseille, ils ont insulté systématiquement tous les reporters télé de n'importe quelle chaîne. Le premier qui passait, que ce soit une femme ou un homme, ils se faisaient pourrir, leur disaient de tout. Donc ils font les beaux parce qu'ils sont entre eux, ils sont dans les tribunes. Et bien là, enfin, ils ont trouvé quelqu'un à qui parler. Alors après, on peut dire que ça se fait
pas
l'exemple,
le coup,
tout ça. Mais il a pris son coup de pied dans la tête. Hein. On n'entendra plus celui-là, il fera moins le beau. Et moi, je vais dire, franchement, pour conclure, c'est bien fait pour sa gueule. Mm.
Mais d'ailleurs, j'espère que ces supporters-là, ils vont être sanctionnés parce que ils ont pas à insulter les joueurs, à descendre au bord de la pelouse.
Alors,
s'ils
sont sanctionnés, c'est pas parce qu'ils ont insulté les joueurs, parce qu'ils sont rentrés sur la pelouse.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Non, mais tu parles comment c'est possible, comment il peut y avoir des fumigènes et puis comme ça. Mais moi, pour l'avoir vécu, mais c'est simple. Tu arrives au contrôle. Ben, tu connais pas le mec qui contrôle ou le stadier. Ben, t'es fouillé de fond en comble. Et ben, ou devant toi ou derrière toi, ben, ils se connaissent tous parce qu'ils ont grandi
ouais,
plus
dans le même quartier. Ils se tapent la bise.
Et le mec, il a un Kalachnikov dessous, mais il peut rentrer. Il est pas fouillé. Donc, le mec, ils peuvent rentrer ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Quand t'as une mandarine dans ton sac,
exactement.
T'as une bouteille d'eau.
T'es obligé de la finir, enlever le bouchon parce que tu peux pas la rentrer. Et puis, le mec devant toi, le mec derrière toi, il claque la bise au stadier ou au mec de la sécurité. Et il rentre, il est même pas fouillé. Il peut faire ce qu'il veut. Et ben, voilà, c'est la réalité de qui se vit à Marseille, mais pas qu'à Marseille. À Saint-Étienne, il y a eu 50 ou 100 fumigènes qui ont été. Il y a eu 5 minutes avant.
C'est beau les fumigènes quand même.
C'est pareil. Je suis sûr que c'est pareil. Tu vois, Saint-Étienne, il y en a qui sont fouillés, puis il y en a qui ne sont pas fouillés. Mais c'est ça qui est c'est normal, c'est totalement normal.
Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Patrick, sauf pour la Légion d'honneur, évidemment.
Oui, mais ça tu connais. C'était pour placer le débat à un niveau élevé. Mais bon, tu as compris, c'était une boutade.
Mais voilà, c'est vrai que je reconnais que. On aurait été tous dans le même cas à réagir comme Evra quand tu te fais insulter de singe et compagnie. Le mec il se pointe devant toi, tu en colles une et puis c'est tout. Je veux dire, il y a pas de.
Non,
puis
si t'es professionnel, tu le fais.
Il a
réagi bêtement.
Non, mais c'est clair.
Il y a des enfants qui te regardent.
Non, mais c'est ça. Pour l'exemple, on est d'accord.
Non, c'est pas le match. Attends,
pendant demi-heure, tu te fais pourrir. Et en plus, c'est pas que toi après. Parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent à parler, qui étaient à côté des tribunes, qui ont fait le déplacement. C'est aller sur sa famille. Sur sa mère. Il a entendu pendant 10 minutes, 4-5 mecs, 10 mecs, qui ont insulté sa mère pendant 10-15 minutes. Et ben, au bout d'un moment, tu as envie de leur dire, ben, attends, tu fais le malin parce que tu es de l'autre côté, mais viens, on va. Et ben, voilà ce qui s'est passé. Il a pris son coup de pied et c'est bien fait pour sa gueule.
Ouais, en tout cas, c'est pas beau. Hein, que moi, je pense que quand tu mets des imbéciles ensemble, ben, on arrive à des choses comme
ça. Ce qui se passe, c'est que ça a été diffusé par les télés, parce que
ils en ont fait trois, pas ta aussi. Hein, je suis désolé,
mais des trucs comme ça, ça arrive. Mais ça arrive d'autres fois. Ça, c'est déjà arrivé que des joueurs mettent une bouffe à un supporter, pseudo-supporter. Ça, c'est déjà arrivé. Ça arrivera d'autres fois. Là, c'est tombé parce qu'il y a des caméras partout. C'est l'OM, c'est Evra.
Ça a été bien rappelé l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, quand Tovin était dans la tourmente complète, ben, à la fin du match, sur le parking en partant, il y en a un qui a voulu faire le malin, il est arrivé à Tovin, il lui a dit de tout, ben, Tovin lui a mis une sorte de balayette, le mec il s'est aplati par terre, alors il n'y avait pas de caméra, c'était après le match, sur le parking, bon ben voilà, il n'y a rien eu, il s'est rien passé, mais bon. Comme il dit, c'est pas le premier joueur à fracasser une supporter.
L'année dernière à Lille, c'est ce qui s'était passé avec l'arrivée des Marseillais à Lille pour un déplacement, parce qu'il y avait eu une affaire Tovin, là encore une fois, qui avait signé à Lille et qui était parti au bout de 3 jours. Bref, et c'était parti en bouffe, les joueurs avec leur staff, avec les supporters, quoi.
Alors, est-ce que ça part pas trop en vrille ? On a vu ce qui s'est passé après dans le derby de Saint-Étienne-Lyon. Ça commence à faire beaucoup, hein, toutes ces histoires. On a vu à Everton un supporter qui s'en mêle pendant le match. On a l'impression que ça se multiplie un peu, ces affaires.
C'est général, parce que c'est vrai que bon, il faut se mettre à la place du supporter. Bon, c'est vrai, c'est des sacrifices financiers. Les gars, ils prennent des jours de congé, ils se mettent à mort, ils économisent. Bon, la vie de famille, tout ça, c'est pas évident. Ils vivent ça à 400%. Ils aiment leur club, ils aiment voir leur club gagner. Bon, tout ça, c'est vrai. Mais après, il y a tout un contexte où maintenant les supporters, ils croient que c'est eux qui dirigent les clubs. Et donc voilà, ils sont intouchables parce que justement ils mettent de l'ambiance, parce qu'ils sont tout le temps là, parce qu'ils sont omniprésents, etc. Donc c'est ça le mauvais côté. Il faut que le supporter, ben il est là pour encourager son équipe et il est là pour se faire plaisir, prendre du plaisir. Mais après, il faut qu'il s'arrête là. Il faut pas qu'il croie que c'est lui qui va dire ben il faut recruter tel joueur, il faut pas faire jouer celui-là. Il faut... Et c'est là le problème, il est là, c'est qu'il y a trop maintenant de groupes de supporters et de supporters qui croient que c'est eux les vrais patrons des clubs. C'est ce qui est pour moi une aberration.
Oui, mais est-ce que ça n'a pas marché dans le passé qui pousse ses supporters à croire que ce sont les patrons ? Je me rappelle de l'histoire de Mounier qui devait signer à Saint-Etienne, qui n'a pas signé à cause des supporters.
Exactement.
Et à Marseille, il y a dû avoir des histoires comme ça dont on n'est pas au courant non plus. Hein.
Voilà. Après, il y a un aspect que je répète souvent et qui n'est jamais rappelé, c'est que pour certains supporters, attention, ce n'est pas du bénévolat, c'est leur job. Alors après, ils ont un fonctionnement, c'est plus un rapport de savoir si l'équipe va gagner, être championne ou pas. C'est pour savoir comment je vais faire pour gagner mon job, pour avoir le plus en plus d'adhérents, pour continuer à vivre pépère. Et d'ailleurs, ce que tu vois parler dans les médias ou la télévision, c'est des supporters professionnels. Leur métier, c'est supporter. Donc à partir de là, là aussi, les dés sont pipés.
Ils sont professionnels, mais c'est pas déclaré au fisc, bien sûr.
Ah ouais, mais en fait, ils font que ça.
Ok.
Ils vivent de la vente de tickets,
voilà, des écharpes,
produits dérivés.
Tu vas dans les clubs de supporters, ben il y a un bar, ben tu bois du pastis, tu bois de la bière, ben les bénéfices, voilà, ben ça sert à leur payer un salaire. Il y a des permanents, ils sont déclarés, puisque les clubs de supporters c'est une association, n'importe quoi, style 1901, et donc ils ont des permanents, ils ont des contrats de travail avec certaines personnes et le métier supporter.
Eh ben, on va demander au président Laurer si on peut pas devenir supporter professionnel. Hein,
j'espère que vous n'allez pas envahir le terrain vendredi soir. Hein,
vendredi, on envahit le terrain là à 8. Remarque.
Pas si on gagne. Alors, par contre, si on gagne.
Par contre, je comprends mieux pourquoi tu n'as pas de chaise, parce que c'est pour éviter justement les jets de chaise sur le terrain.
Peut-être, ouais, c'est ça.
Ça peut être dangereux. Hein.
C'est ça.
Rappelle-nous quelle heure, où
et contre qui.
Et contre qui.
Alors vendredi, alors contre qui, je me rappelle plus du tout. Tu me poses une quoi là.
T'as vu comme il prépare bien ses matchs. Alors j'ai travaillé sur l'adversaire.
Vendredi,
je sais plus
soir,
qui c'est.
Vendredi soir à 21h, coup d'envoi 21h au gymnase du lycée Chaptal.
Alors sûrement contre une des quatre autres équipes de Alba, vu qu'il y en a déjà cinq.
Et donc j'espère que vous viendrez nombreux. Le grillage au.
Hein oui, vas-y.
Le portail du lycée Chaptal, là, ils ont mis des tourniquets, donc il faudra passer par l'autre côté. En fait, sur par la rue. T'as une entrée en face de l'arrière du gymnase de la Vernède.
Ok, on n'a rien compris. Non, mais sinon, il faut là par là où il y a les travaux, il faut rentrer.
Exactement, voilà. C'est ça.
Okay. C'est plus l'entrée là où tu avais les feux ouais. Et les dodanes, c'est plus cette entrée-là.
C'est pas l'entrée principale en face du parking de la Vernède, c'est l'autre.
Ok, on y sera ou pas. Allez, ciao les gars, on se retrouve lundi. Bye.
Allez, bye bye.
Au revoir.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du petit apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du petit apéro.